France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de France Culture, j'ai le grand plaisir de recevoir une journaliste au long cours, une passionnée de l'Orient chrétien et de ses mystères. Mais pas seulement, car Marine de Thilly, vous ne cessez de voyager pour couvrir l'actualité, parfois sinon souvent tragique de ces contrées malmenées, et particulièrement le présent des communautés chrétiennes et des minorités. Si vous avez commencé votre brillante carrière comme critique littéraire au Figaro, vous travaillez maintenant pour Le Point et d'autres magazine, il serait trop long de les citer, Le Point où les lecteurs peuvent découvrir chaque semaine vos chroniques, mais encore plus vos reportages en immersion, que ce soit en Syrie, en Irak ou bien en Arménie, pour nous porter la voix des oubliés. Bonjour Marine.
Bonjour Sébastien.
Alors une première question pour commencer cet échange, une sorte de rituel dans notre émission, c'est de vous demander quel a été votre premier choc, votre premier regard sur le Levant et ses chrétiens.
Moins que le premier regard qui a été un regard pour le coup très violent, parce que je suis arrivée dans la guerre, que ce soit en Syrie ou en Irak, dès 2012, 13, 14. Je préférais vous parler du premier choc de beauté, de grâce, de calme, qui correspond au lendemain en fait de la libération de Mossoul. On est en Irak, on est en juillet 2017 quand Mossoul est libéré. Et il fait très très chaud, je suis à ce moment-là pour travailler justement sur le lendemain, le jour d'après. Et je décide d'aller à Mossoul dans une avec des gens, sans journaliste, sans photographe, je suis simplement avec des amis en fait, et qui rentrent à Mossoul. Je voulais être avec eux le jour où ils retournent chez eux. Donc je suis dans une voiture, je passe les checkpoints et puis on tombe en panne. Je me retrouve à 50 degrés sur le bord de la route et là arrive une voiture, un camion même, dont descend un autre, un occidental. Je vois tout de suite qu'il est occidental. Je discute avec lui, c'est devenu un ami aujourd'hui. C'est mon camarade photographe Jean-Mathieu Gauthier. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez m'emmener? Parce que je suis coincé, je suis en rade sur le bord de la route. Et je monte dans cette voiture où on me colle immédiatement sur les genoux une statue de la Sainte Vierge. Une statue de la taille de celle de Lourdes, c'est-à-dire 1m75. Donc j'étais écrabouillé par une statue de... Et je tenais comme ça sur mes genoux la figure, le visage de la Sainte Vierge. On sortait, on était le lendemain de la guerre. C'était le premier jour de silence après la déflagration. Et me voilà en train de bercer une statue de la Sainte Vierge. Et on traverse le désert. Ils allaient à Al-Kosh pour remplacer précisément les Saintes Vierges qui avaient été décapitées. Et ils arrivaient avec un camion plein de Saintes Vierges de Lourdes. Et donc je me suis retrouvée là-dedans avec cette Sainte Vierge sur les genoux. Et c'était un grand moment, un grand choc de grâce en fait et de douceur au milieu de toute cette violence. Parce que ça tirait encore, enfin c'était pas encore complètement calme. Et on roulait dans le désert. Et j'avais la Sainte Vierge sur les genoux.
Image saisissante. Rappelons un petit peu le contexte. C'est la libération de Mossoul par l'armée irakienne des forces de Daesh.
Oui, c'est ça. Après, ça faisait un an qu'il y ait deux sièges. Donc, on était un petit peu tous sidérés, comme toujours le lendemain. On nous dit, ça y est, c'est terminé. Vous avez beaucoup d'allers-retours, beaucoup de gens qui arrivent, d'autres qui fuient, enfin, qui sortent en fait de leur trou où ils étaient cachés depuis près de 9 mois, pour certains. Et à ce moment-là, nous, on est dans la plaine de Ninive, avec ces Saintes Vierges, du coup, parce que j'ai suivi parce que je trouvais que ça très amusant, quand même, enfin, très intéressant. Et là, en l'espèce, on est allé à Al-Kosh, qui est un des seuls monastères qui n'avait pas été pris. Ils disent Al-Kosh dans la main de Dieu, qui n'avait jamais été touché et pris par Daesh. Mais hélas, à Karakosh, c'était moins le cas, Barthella aussi. Et on a comme ça voyagé avec nos Vierges de Lourdes, tout autour dans la plaine de Ninive, où on a remis, ce sont des... Tous les habitants qui étaient toujours là nous disaient ce sont des statues de plâtre, mais c'est l'éternité en même temps. Et puis, vous savez, les Irakiens sont très, très fans de Lourdes et de la Vierge, des grottes de Lourdes, des petites grottes de Lourdes un petit peu partout. Donc, c'était symboliquement très fort pour eux.
Marine de Thilly, comment devient-on journaliste de guerre?
Je ne sais pas si je suis journaliste et je ne sais pas si je suis journaliste de guerre, mais en revanche, ce sont des endroits qui m'ont appelé très tôt. Et j'ai eu envie d'y retourner, d'y rester. Il s'est trouvé que la guerre s'était abattue. L'abattoir international en folie, comme disait Céline, et ne quitte plus ces pays. Mais j'ai aucune fascination pour la guerre. En revanche, j'aime bien aller, rester, retourner. Et au-delà de mon travail, qui consiste quand même, en effet, à rapporter, par exemple, comment Daesh défigure l'humanité, j'aime aussi travailler sur ceux qui lui donnent, du moins qui essayent, de lui donner un nouveau visage à cette humanité. Donc moi, j'essaye vraiment de rester après les tampons, après les guerres, après les morts, parce qu'ils, eux, continuent à exister, eux résistent et reconstruisent. Et ça me passionne d'autant plus que la destruction. Voilà. Un jour, il y a un Syrien qui m'a dit, c'est le plus beau compliment qu'il ait pu me faire, il m'a dit, toi, t'es pas journaliste de guerre, t'es journaliste de paix. Ça m'a fait très plaisir.
Très belle image. Mmh. Je sais aussi que vous avez connu ces pays, notamment la Syrie, qui est un pays qui vous fascine, une culture fort ancienne et profondément attachée à ce qu'on pourrait appeler nos racines communes. Mmh. Vous avez connu le monastère de Marmoussa dans les années 2000. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette figure du père Paolo, je crois que vous avez connu?
Oui, parce que j'avais... Oui, en effet, mais ça, c'était avant la guerre. J'étais partie en Syrie, j'étais assez jeune. J'étais partie en Syrie pour faire le petit futé. Voilà. C'était le seul moyen que j'avais trouvé de partir là-bas. J'avais dit au petit futé, il faut miser sur la Syrie, parce qu'il y avait un Syrie-Liban-Jordanie.
On est vers 2006, 2005, 2007.
Et donc, je vais voir le petit futé, je leur dis, il faut vraiment miser sur la Syrie, on va faire un petit futé spécial Syrie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les 200 pages d'histoire, évidemment, au début, puisque le reste, à peu près, tout est à peu près fermé le vendredi, et tout est à peu près, à ce moment-là, en Syrie, pas très touristique, pas très propre, et pas très au carré. Mais en revanche, rempli de Syriens, et donc de joie, de vie, et d'histoire. Donc, pour ce qui était du guide, ce qui m'intéressait, c'était surtout l'histoire. Grâce à ce guide, je me promène normalement pendant 2 mois, mais finalement j'y reste quasiment 6 mois. Et effectivement, j'en profite pour faire un petit ermitage dans ce monastère de Marmoussa, où je rencontre Paolo, qui était là, Paolo qui était une figure quand même très forte de la Syrie de l'époque, et de la Syrie toujours d'aujourd'hui d'ailleurs.
Le père Paolo Dall'Olio, ce jésuite italien qui a restauré ce monastère qui est au nord de Damas.
Voilà, qui a disparu en 2015 à Raqqa alors qu'il était en train de négocier avec Daesh la libération d'un certain nombre d'otages. Une grande figure et une grande gueule aussi de la Syrie chrétienne. Et voilà, j'ai passé un mois et demi là-bas. Et Paolo, j'étais vraiment dans... Enfin, il y avait plusieurs options. Et moi, j'ai pris l'option silence, grotte. Et le silence est très... Et le grand luxe de notre époque. Le silence et la solitude.
Que deviennent les chrétiens de Syrie depuis la guerre, depuis la chute du régime Assad?
Depuis la chute du régime, c'est difficile de... Il y a eu... Bon, le 8 décembre, Assad tombe. Le 10 décembre, je rentre en Syrie pour la première fois depuis 10 ans. Avec toutes les portes et les checkpoints ouverts, alors que je me suis cachée pendant longtemps dans des coffres. Les journalistes ne rentraient pas chez Assad. Autant on pouvait aller chez les Kurdes de l'autre côté, dans le nord-est, en négociant un petit peu. Du côté d'Assad, c'était parfaitement fermé. D'ailleurs, il y avait très peu de journalistes. Et il fallait se bagarrer ou mentir ou tricher pour rentrer. Ce que j'ai fait du reste, mais c'était quand même un tout petit peu sur les lignes à chaque fois. Là, je rentre, tout était ouvert. Et les barrières sont ouvertes par des miliciens, en tong et en kalachnikov, quoi, qui sont très souriants. Vous montrez votre carte de presse, ils vous ouvrent la barrière. Déjà, c'est assez spectaculaire. C'est quand même complètement fou. Mais je discute à ce moment-là avec des amis curés, notamment à Homs, à Alep, qui me disent, en plaisantant, ils me disent, maintenant, c'est toi qui vas devoir nous cacher dans ton coffre, alors que nous t'avons caché dans les nôtres pendant 10 ans. Donc, à ce moment-là, le lendemain de la chute, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire dans la sidération, mais avec un espèce de souffle de joie, quand même, et d'espoir. Parce qu'on sort de 54 ans du pire. Je ne sais pas si on pouvait faire pire. Toutes les minorités, les Syriens en général, espèrent. Il y a 3 minutes de paix. Et il faut en profiter, il faut les goûter, il faut les boire jusqu'à la lie. Voilà, le surlendemain, évidemment, est un peu plus difficile. En particulier pour les chrétiens qui s'inquiètent, évidemment. Déjà, on leur demande leur avis, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. Donc, il faut en avoir un. Il faut le construire. Il faut l'unifier. Toutes les églises doivent se parler entre elles, se mettre d'accord. Il y a une petite panique à ce moment-là, évidemment. Puis, on a des réflexes de se cacher, de se taire. Moi, j'étais le 10, j'étais là-haut à Alep avec Monseigneur Jallouf, qui est, vous savez, qui est l'archevêque latin d'Alep. Donc, on est vraiment dans la minorité, parce qu'il y a très peu de latins. Lui connaît très bien le nouveau maître des lieux, puisqu'il était le curé de Idleb. Et lui me dit, j'y crois, je le connais personnellement et je le compte parmi mes amis. Voyez, alors qu'il a passé, Jallouf, il a passé 2 ans en prison, mais a été libéré. Il a été libéré par lui et il me dit comme ça, hein, en face, il me dit, il a rendu quelques terres aux chrétiens de Idleb et il nous a laissé faire sonner nos cloches. Les femmes n'étaient pas obligées d'être parfaitement couvertes. Donc si vous voulez, là, on y croit à ce moment-là. On y croit très fort. On a très envie d'y croire, avec toujours un petit peu d'inquiétude. Depuis, il s'est passé quand même beaucoup de choses. D'abord, bon, il y a eu le massacre des Alaouites. Les chrétiens n'étaient pas visés à ce moment-là, il y a eu un peu de débordement.
Et puis le terrible attentat du mois de juin dernier.
Évidemment, qui résonne avec celui de Bagdad en 2003, évidemment, et qui est un...
Celui de 2010 aussi à Bagdad, a été massacré.
C'est extrêmement brutal et violent. Ça a été un petit peu rapidement passé par, en tout cas, les médias occidentaux, qui étaient très concentrés sur l'Iran et Israël, évidemment, mais c'est un choc très violent pour les chrétiens qui demandent de la protection, en fait. En effet, qui méritent aussi une protection, parce qu'il ne s'agit plus de reconstruire, il s'agit de résister, d'exister, en fait, de ne pas définitivement mourir, disparaître. Il y a quand même très, très, très plus beaucoup de chrétiens en Syrie.
On va pas faire le jeu d'évaluation, parce que je pense que c'est très difficile.
Oui, c'est difficile.
C'est quelques dizaines de milliers, peut-être, oui. de personnes qui... C'est ceux qui n'ont peut-être pas pu encore partir.
C'est ça. Et c'est pas vraiment un souffle de vie, quoi. Ce sont généralement des personnes un peu âgées, qui n'ont pas réussi à partir, ou qui n'ont pas... Il y en a qui veulent rester, mais ils ont pris le soin quand même d'envoyer leurs enfants, et surtout leurs petits-enfants, ou bien au Liban. Ça, c'est généralement le premier palier. Et ensuite, si on peut partir en Europe, on y va. Les chrétiens qui sont encore là, c'est qu'ils n'ont pas le choix.
Je parlais de la voix des oubliés. Vous portez la voix des oubliés. Un pays qui me semble important et qui incarne cette notion, cette émotion, c'est l'Arménie particulièrement.
Oui.
Vous êtes allé beaucoup en Arménie.
Oui, j'aime beaucoup l'Arménie, je travaille beaucoup en Arménie, j'essaye de porter la voix de l'Arménie dans les médias occidentaux. C'est très difficile depuis 2020, alors que ça fait partie de ces guerres parfaitement oubliées, voire méprisées, parce que je ne suis pas sûre qu'elles soient totalement oubliées, mais on n'a pas du tout envie de regarder, on ne s'en inquiète pas. Et en fait, on assiste, muet, à l'extinction d'un peuple, parce qu'il s'agit de ça quand même. Il y a 110 000 personnes du Haut-Karabakh, de Artsakh, qui ont disparu de la surface. Le pays n'existe plus. J'ai dans mon passeport des visas d'un pays qui n'existe plus, qui avait un statut assez singulier, certes, mais toujours est-il qu'il existait sur la surface de la Terre. Maintenant, il n'existe plus. Et pourtant, il y avait des gens quand même là-dedans. Donc, où sont-ils? Que sont-ils devenus? Que font-ils? Bon, ça c'est la première question. Artsakh a disparu, le Haut-Karabakh n'existe plus. La pression se poursuit sur les frontières d'Arménie, de l'Arménie souveraine cette fois-ci. Et la méthode turco-azérie est très efficace. C'est-à-dire que pour l'instant, là, depuis un an, elle est assez silencieuse, elle est discrète. Mais les frontières bougent et avancent. Et on s'inquiète, je m'inquiète beaucoup pour le Syunik, le sud de l'Arménie, qui est ce petit bras qui est le dernier verrou en fait. Avant l'unification entre la Turquie d'un côté et l'Azerbaïdjan de l'autre.
Culturellement, j'allais même dire spirituellement, que vous ont apporté le contact de ces communautés? Est-ce que vous prenez le temps, au milieu de ce déchaînement de violence, de l'écoute? Vous parliez du silence tout à l'heure, du recueillement. Est-ce que vous avez cette nécessité en vous qui vous porte à faire une pause?
Bah non seulement c'est plus qu'une fois, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est d'abord on les écoute et on se tait en fait, et moi j'aime beaucoup les regarder prier avec eux si je peux essayer, et une fois que c'est fait, et même n'importe quelle conversation de toute façon est une prière là-bas, et ensuite évidemment vous êtes obligé de vous attacher aux circonstances autour, au bruit autour. Mais que vous soyez, moi je passe chaque année, je vais passer Noël sur la ligne en Arménie, parce que donc ce sont les apostoliques arméniens, vous savez, c'est le 7 janvier, et donc ce qui me permet de passer Noël chez moi et ensuite de passer Noël avec eux. Et donc, je pars chaque année, début janvier, sur les lignes où je commence à avoir quelques bons camarades, des héros très courageux, qui sont tout seuls, qui défendent leur village tout seuls, parce que là, Erevan ne défend plus trop ses frontières. Bref, et donc je vais dans les tranchées avec eux, qui sont des tranchées, on a l'impression d'être chez Genevois, hein, c'est vraiment un voyage dans le temps. Et je vais passer Noël avec eux. Et que fait-on à Noël ? On prie, en fait. On prie et on mange un petit peu de viande. Donc, généralement, on prépare un mouton avant. Bon, les Arméniens ont beaucoup de rituels pour Noël. Et ils mangent le mouton qu'ils partagent, ils prennent la force du mouton et ils prient. Tout ça à 250 mètres des lignes azéries. Qui nous voit, qui nous nargue. Parfois, il y a des petits points rouges sur les fronts des uns et des autres, juste pour signifier qu'on n'est pas loin. Les chiens aussi traversent ces espaces de 200 mètres. Et d'ailleurs, s'entendent très bien, ces chiens. Je leur dis toujours, vous voyez, ça, c'est un chien azéri, par exemple. Ben, vous voyez, finalement, on peut peut-être, si on s'entend avec leur chien, peut-être qu'on peut parler.
Est-ce que vous trouvez qu'on donne une place suffisante à vos récits, pas vous personnellement, je sais que vous êtes très pudique sur votre action, mais sur cette façon qu'on a, qui est du reportage, qui est de l'immersion, pour porter justement cette voix jusqu'à nous.
Moi, ça fait partie du travail, et c'est peut-être même la plus grande partie du travail, c'est d'essayer de convaincre les médias. Et en particulier les médias, moi je travaille dans l'écrit, de donner une place, une voix et à ces situations, à ces géographies. Donc c'est pas très simple parce que l'actualité est hélas très lourde et que des guerres, il y en a partout. Et puis il y en a des plus ou moins importantes, considérées comme plus importantes, des plus ou moins lucratives, pour dire les choses tout à fait vulgairement, mais s'il s'agit de ça quand même. Voilà, l'Arménie n'intéresse pas, par exemple, parce que l'Arménie, à part un couloir de pipeline pour les Iraniens, par exemple, qui du reste ont toujours été assez fidèles à l'Arménie, géopolitiquement, géostratégiquement, économiquement, l'Arménie ne vaut que son histoire, sa civilisation, qui est la première, en fait, à avoir été chrétienne. Donc moi, je trouve que ça compte. Mais en effet, c'est pas ça pèse moins lourd à côté d'une de l'Ukraine, par exemple, qui est au bout de la rue. L'Arménie, c'est difficile à expliquer, hein, ce désintérêt pour l'Arménie.
Est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement d'unité entre ces chrétientés d'Orient depuis ? On parlait d'Alep tout à l'heure, on parlait de l'Irak, cette plaine de Mossoul, Ninive et l'Arménie, le Caucase. Alors vous parlez du présent, vous êtes active, vous décrivez, on comprend mieux grâce à vous et d'autres, bien entendu, le présent que traversent ces communautés. Mais en tant qu'historien, la question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce qui reste de ces unités passées ? Est-ce que vous avez des... peut-être par les monastères, par certains endroits ?
Oui, vous avez raison. Il y a des monastères qui sont des lieux d'unité, en effet, où non seulement les chrétiens, mais pas seulement les chrétiens, les musulmans aussi. À Marmoussa, par exemple, c'est vraiment le lieu du dialogue. On est c'est très massignonien comme atmosphère, vous voyez.
Référence à Louis Massignon.
Ou Charles de Foucault aussi. Enfin, on retrouve vraiment des grandes voies du dialogue entre l'islam et les chrétiens. Pour ce qui est de l'unité des communautés chrétiennes, c'est pas simple. Mais ils essayent, il y a une volonté. Et je crois, moi j'ai observé que ce qui fait l'unité, c'est quand même, comme souvent, ce sont des personnalités, ce sont des figures. Et vous avez des figures, par exemple les Arméniens, vous trouvez les Arméniens à Alep, vous trouvez des Arméniens en Arménie, vous trouvez des Arméniens, je parle de la religion, parce que l'Arménie c'est à la fois une nationalité et une religion en fait. Et vous en avez en Irak, etc. En fait, vous les retrouvez un petit peu partout, et qu'est-ce qui les rassemble, qu'est-ce qui fait qu'ils sont avec d'autres chrétiens ? C'est la foi. Il leur reste plus que ça en commun, quoi, finalement. Donc, oui, ils restent quand même. C'est-à-dire que même s'ils aiment bien se disputer, et puis, bon, il y a des petites histoires de pouvoir entre eux, entre les uns et les autres, parce que vous savez, ce sont des minorités. Et à l'intérieur des minorités, il y a toujours des encore plus petites minorités. Donc, il faut se dire, nous, on est dans la minorité, mais on est quand même plus nombreux dans la minorité. Comme ça, on existe un petit peu plus. Donc, ils ne savent pas toujours se parler, mais en tout cas, ils le font calmement. Ils ne se font pas la guerre non plus. Et ils se retrouvent dans des endroits, des lieux de dialogue et surtout à des moments. Il y a des moments d'union, de fraternité. Et la visite du pape, par exemple, en Irak, était un vrai moment d'unité entre les différentes communautés qui aiment bien se chamailler. Là, ils étaient tous derrière le pape. Et donc, il y a une vraie compréhension de la nécessité de se retrouver quand ça compte, quoi. Et c'est là, surtout que c'est le salut. Il n'y aura pas d'autre moyen pour résister et pour exister encore.
Est-ce que vous avez rencontré des personnalités de foi particulièrement, hein? Je pensais au père Paolo, bien entendu, mais est-ce que vous, dans ces campagnes reculées du plateau arménien, par
oui,
exemple...
Oui, en Arménie, de toute façon, ils ont le sentiment... je vous parle de l'Arménie des frontières, hein, des lignes, parce que vous allez à Erevan, c'est pas du tout la même atmosphère. Comme souvent, d'ailleurs, dans les pays en guerre, vous atterrissez à un endroit, déjà, il y a un aéroport, donc c'est plutôt bon signe. Et puis, vous partez, vous faites 300 kilomètres, et là, vous, en fait, c'est vraiment parfaitement schizophrène, quoi. D'un côté, c'est les ruines, de l'autre côté, c'est des gens qui boivent des cafés le soir et qui boivent des bières. Bon, quand vous vous approchez des lignes, c'est une autre Arménie. Et là, en effet, vous tombez... J'ai croisé beaucoup de gens très religieux qui n'avaient plus que ça, abandonnés de tous, y compris de leur propre gouvernement. Il leur reste plus que leur foi et que le ciel.
Quand vous parlez d'élite, vous parlez du front ?
Oui. Enfin, de la ligne... En fait, c'est la ligne de frontière, mais qui est aussi une ligne de front, mais qui n'est pas une ligne de front active quotidiennement, quoique, hein, y a des échanges de tirs quand même réguliers. Mais c'est plus de l'intimidation, c'est de la pression. C'est la pression létale qu'exerce l'Azerbaïdjan dans la main d'Ankara pour progresser doucement et avancer. Et ils prennent village après village. Il y a des situations complètement ubuesques où vous voyez d'un coup la frontière qui traverse le village. Et ce bon Stéphane, là, qui a des abeilles, se retrouve avec ses abeilles d'un côté de la frontière et sa maison de l'autre côté. Vous voyez, ça, c'est typiquement la vie des gens des frontières, où ils sont balancés d'un côté et de l'autre de l'histoire, d'un côté et de l'autre de la guerre. Donc, alors, c'est complètement absurde. Vous avez un décret qui vous dit, à partir de ce soir, minuit, vous traversez cette route, vous êtes en terre azérie. Bon, mais sauf que de l'autre côté de la route, il y a les vaches, il y a les abeilles. Donc, que fait-on ?
Voilà. Marine de Thy, un immense merci pour ce témoignage, pour vous être arrêtée en ce dimanche matin auprès de notre micro. Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Emmanuel Couturier pour la technique. Nous retrouvons maintenant Solae, le service protestant. Bon dimanche. Can I be dinner there?